France Inter.
Le journal de 13h avec vous, Sébastien Cabrita dos Santos. Bonjour Sébastien.
Et bonjour à tous. La présomption d'innocence pour tout le monde, même pour les ministres, l'exécutif ne déroge pas. Rachida Dati, renvoyée en correctionnel pour corruption, confirmée ce midi dans ses fonctions. Les magistrats, directement attaqués par l'ancienne garde des Sceaux, lui répondent. Une manifestation très rare dans une Ukraine en guerre. Rassemblement contre la suppression de l'indépendance pour deux instances anticorruption. Reportage à Kiev. Travailler pour le taux plein, mais lever le pied. La retraite progressive, bientôt ouverte dès 60 ans. Une alternative aussi aux pesticides pour sauver les cultures de betteraves. Ça existe, assure l'Agence de l'environnement ANSES en plein débat sur la loi Duplon. Après le Rassemblement national, le parti Les Républicains ne dit pas non pour soutenir le maire de Béziers, Robert Ménard, aux prochaines municipales. Et puis, des châteaux gonflables, des trampolines et même une piscine pour apprendre à nager face à l'océan Atlantique. Le club Mickey fête ses 90 ans aujourd'hui. Le président de la République avait déjà pris acte. La porte-parole du gouvernement ce midi confirme l'exécutif fait bloc. Autour de la ministre de la Culture, Rachida Dati, renvoyée en correctionnel pour corruption dans l'affaire Renault-Nissan. Réponse lapidaire de Sophie Prima à la sortie du Conseil des ministres.
Le président de la République a eu l'occasion publiquement de s'exprimer. Le gouvernement également respecte la présomption d'innocence et en ce sens, nous continuons à travailler avec la ministre de la Culture qui est très déterminée sur ses missions. Nous respectons aussi les institutions dont la justice et chacun doit s'en tenir à cette ligne.
Sophie Prima, la porte-parole du gouvernement il y a quelques minutes à l'Élysée. La justice qui de son côté se défend après les propos virulents contre la magistrature de l'ex-garde des Sceaux, Rachida Dati, a dénoncé hier une procédure émaillée d'incidents. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Avec des voix qu'on entend rarement, hein, qui s'élèvent aujourd'hui pour soutenir la profession.
Et c'est le président du tribunal judiciaire de Paris qui a dégainé le premier ce matin, communiqué envoyé à la presse à 10h15 au sujet de cet extrait, Rachida Dati, hier soir sur LCI.
Les droits de la défense en France, aujourd'hui, avec certains magistrats, ils marchent dessus. Vous faites des demandes d'actes, elles sont pas motivées. J'ai pas appris mon travail comme ça, moi.
L'opprobre jeté publiquement sur des magistrats soumis au devoir de réserve et ne pouvant répondre à ces attaques jette le discrédit sur l'autorité judiciaire et sape la confiance légitime des citoyens dans la justice, écrit Peymane Gallet-Marsban, le président du tribunal de Paris. Deuxième salve de réplique. Une heure plus tard, un communiqué encore venant cette fois du parquet national financier, signé de son président Jean-François Bonnert, cité directement hier soir par Rachida Dati.
Monsieur Bonnert, qui est le procureur national financier, m'a reçu 2h30 dans son bureau. On a discuté du dossier. Il m'a dit, droit dans les yeux, que mon dossier ne tenait pas et qu'il avait même des difficultés avec son parquet. Je le cite, il ne peut pas me démentir.
Et c'est pourtant ce qu'il fait en 5 paragraphes. Le procureur rappelle qu'il a co-signé en personne le réquisitoire définitif de novembre qui demande le renvoi de la ministre devant le tribunal, validant ainsi, je cite, l'analyse soumise par les magistrats placés sous son autorité. Et Jean-François Bonnert leur réitère son soutien tout en rappelant l'indépendance des juges d'instruction.
Delphine Evenou, service police-justice de France Inter. Et ce matin, le secrétaire général du parti socialiste Pierre Jouvet demande à son tour la démission de la ministre qualifiée de voyou aux méthodes trumpistes. Fin d'audition pour l'ancienne compagne de Cédric Jubilard, entendue ce matin par les enquêteurs à la demande de la justice. Elle affirmait dans une récente interview que son compagnon lui avait confié avoir étranglé son ex-femme et lui avoir dit où se trouvait le corps de Delphine, portée disparue depuis 5 ans maintenant dans le Tarn. Lui clame toujours son innocence en détention provisoire. Le site de France Travail cible d'une cyberattaque. Les données de 340 000 demandeurs d'emploi ont été consultées. Certaines susceptibles d'être divulguées, voire exploitées de manière illégale, déplore l'opérateur public dans un communiqué. Un nouveau chef d'état-major pour les armées françaises, c'est le général Fabien Mandon, actuel chef d'état-major particulier du président, qui remplace le général Thierry Burkhardt sur le départ. Le peuple ukrainien dans la rue, c'est une première, ou presque, depuis le début de la guerre il y a près de 3 ans et demi. Des centaines de personnes rassemblées hier soir à Kiev après que le président Volodymyr Zelensky a promulgué une loi qui supprime, Bastien Bory, l'indépendance des agences anticorruption dans le pays.
Le mot veto s'entend dans toutes les bouches et se lit sur toutes les pancartes, car hier au Parlement ukrainien, de vieilles élites conservatrices ont fait plier l'exécutif qui concentrera désormais l'essentiel des compétences en matière de lutte anticorruption.
Nous resterons debout et nous allons exiger de nouvelles mesures. Vous n'imaginez pas à quel point les gens sont fatigués.
La société que vous voyez là ne se laissera pas faire. Il est évident que le pouvoir est en train de nous tester et de vous tester. Maintenant, les autorités attendent simplement de voir quelle sera la réaction des gens.
Jusqu'à tard dans la nuit, près de 2000 personnes ont foulé les pavés du centre-ville. Presque tous dans la vingtaine, ces manifestants ont été rejoints par quelques sexagénaires bien au fait du problème de corruption en Ukraine et des motifs parfois fallacieux invoqués pour affaiblir certaines institutions démocratiques.
Dans notre pays, le business n'est pas séparé de la politique. Tout se confond et le mélange entre la politique et l'argent est à la base de la corruption.
Les manifestations continueront de grandir. Nous voulons vivre dans un pays normal, avec des lois. Personne ne veut vivre dans le pays le plus corrompu d'Europe.
Après les pressions immédiates de l'Union européenne hier, Volodymyr Zelensky a voulu rassurer « Tous les organes anticorruption en Ukraine continuent, selon lui, de fonctionner normalement ». À Kiev, Bastien Bory, France Inter.
La France qui fait part de sa préoccupation quand on est candidat à l'Union européenne. Cela entraîne des exigences en termes de préservation de l'état de droit, déplore ce matin le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad. L'Europe qui regarde à l'Est après l'accord commercial conclu au cœur de la nuit entre les États-Unis et le Japon, qualifié d'énorme par le président américain Donald Trump. Tokyo accepte finalement les droits de douane imposés par Washington. 15% de surtaxe et évite ainsi la menace qui jusqu'ici planait à 25%. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
La date butoir pour trouver un accord approche, c'est dans une dizaine de jours et pour le moment, l'Union européenne au contraire joue toujours le bras de fer.
Oui, à la demande de la plupart de ses États membres, dont la France qui appelle la Commission européenne à se montrer ferme face aux négociateurs américains. L'appréciation portée depuis Bruxelles sur l'accord conclu cette nuit entre les États-Unis et le Japon est mitigé. Certes, les droits de douane globaux sont ramenés à 15%, mais dans le détail des secteurs industriels, certains restent très lourdement taxés, en particulier l'acier, 50%, un taux jugé prohibitif en Europe. D'autres secteurs comme la pharmacie ou l'aéronautique menacent déjà, à mots plus ou moins couverts, de délocaliser outre-Atlantique une partie de leur production. C'est tout l'enjeu qui fait débat entre Européens à mesure qu'approche la date limite du 1er août. Faut-il accepter un accord dit asymétrique avec les États-Unis? Cela aurait certes l'avantage d'apporter un peu de visibilité, mais cela pourrait aussi mettre en péril des pans entiers de l'industrie européenne. Un dilemme qui reste entier à 8 jours du terme prévu des négociations. De nouveaux échanges doivent d'ailleurs se tenir cet après-midi.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles pour Inter. Le président américain a également annoncé hier soir avoir conclu un accord avec les Philippines. C'est déjà signé aussi avec le Royaume-Uni et le Vietnam. Le décret a été publié ce matin au Journal officiel. La retraite progressive bientôt ouverte dès le mois de septembre à partir de 60 ans et plus 62 ans. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
On joue sur les deux tableaux, un peu de temps libre avec une fraction de retraite et un peu de travail pour continuer à cotiser jusqu'au départ à taux plein, mais comme souvent, c'est sous condition.
Oui, le salarié qui souhaite bénéficier de ce régime devra avoir cotisé pendant au moins 150 trimestres, mais surtout, il faut que son entreprise accepte de mettre en place ce système, ce qui visiblement n'est pas encore entré dans les habitudes. Fin 2024, 31 368 salariés bénéficiaient de ce dispositif, selon les études de l'assurance retraite, soit 0,2% de l'ensemble des retraités. Alors, il faut noter que ce chiffre est tout de même en augmentation constante depuis 10 ans et que chaque assouplissement des modalités attire de nouveaux candidats qui en majorité d'ailleurs choisissent un temps partiel entre 30 et 50%. Sont donc concernés par ce dispositif les assurés relevant du régime général, mais aussi des régimes spéciaux, fonction publique, agriculteurs, professions libérales et avocats. Enfin, rappelons que cette mesure fait partie d'une série d'accords signés à l'automne dernier entre le MEDEF, la CFDT et la CFTC pour notamment améliorer l'emploi des seniors.
Agnès Soubiran, Service Éco de France Inter. C'est le point qui cristallise depuis les colères, depuis des jours. Les anti-lois Duplomb rejettent catégoriquement la réintroduction dans notre agriculture d'un insecticide jugé dangereux quand de nombreux producteurs assurent de leur côté qu'il s'agit pour eux d'une question de survie. Pourtant, des alternatives existent. Bonjour Grégoire Le Callot.
Bonjour.
L'Agence de sécurité alimentaire ANSES, que la ministre de la Transition écologique souhaite saisir de la question, assure qu'il y a des solutions moins nocives, voire dans certains cas plus efficaces.
Oui, alors en fait, l'ANSES a déjà été saisie deux fois sur la question. La première, c'était en 2018 pour savoir si des alternatives existent aux néonicotinoïdes, donc la famille du pesticide qui est au cœur de la controverse dans la loi Duplomb. Et la seconde, c'était en 2021 avec un focus sur les problèmes de la betterave sucrière. Et à ces deux occasions, l'ANSES a identifié au total 2000 autres solutions. Donc oui, on peut dire que des alternatives existent, mais attention, pas tout le temps quand même. Pour 6% des cas, les chercheurs n'ont identifié aucune autre possibilité, et ça comprend la noisette, dont les producteurs ont demandé l'accès à l'acétamipride. Pour le reste, dans 78% des cas, il y a des alternatives non chimiques. Ça peut être l'utilisation de plantes qui émettent des répulsifs naturels, l'introduction de prédateurs, des insectes ravageurs, ou alors en procédant par exemple à des rotations de cultures. Et il y a aussi des solutions chimiques, d'autres familles de pesticides. Alors, l'ANSES prévient, en eux-mêmes, les substances ne sont pas moins nocives, mais c'est leur utilisation qui l'est. Les néonicotinoïdes sont utilisés largement et en préventif. D'autres insecticides peuvent être utilisés en traitement et quand il y a des infestations, uniquement sur les parcelles touchées. Et leur efficacité est similaire, parfois même supérieure.
Et pourquoi alors, dans ce cas-là, Grégoire, est-ce que les agriculteurs ne s'en saisissent pas ?
Eh bien, précisément, l'utilisation très large et en préventif des néonicotinoïdes est un de leurs grands atouts. C'est bien plus pratique pour les agriculteurs. Il y a aussi une question de prix. Il faut souvent utiliser plusieurs insecticides alternatifs au lieu d'un seul pour avoir un résultat. Et lâcher des prédateurs naturels coûte cher aussi. Et puis, il y a la dépendance historique de l'agriculture intensive à la chimie. Difficile de changer de modèle. D'autant que les producteurs de semences sont parfois les mêmes que les producteurs de pesticides. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt économique à créer des variétés de plantes naturellement résistantes aux maladies, comme ça pourrait être le cas pour la betterave.
Grégoire Le Callot, le chef de l'État, dit à l'instant tant qu'il veut concilier science et juste concurrence et qu'il attendra les conclusions du Conseil constitutionnel pour se prononcer sur cette loi Duplomb. La pétition pour réclamer l'abrogation atteint désormais le 1 800 000 signatures. D'autres semblent s'en inspirer et espèrent profiter d'un même élan populaire pour s'attaquer cette fois au budget récemment présenté par François Bayrou. 44 milliards d'euros d'économies à faire l'année prochaine. Plusieurs syndicats dont la CGT et sa secrétaire générale Sophie Binet lancent à leur tour une pétition dans l'espoir de peser sur les discussions à venir.
C'est une excellente nouvelle que cette pétition contre la loi Duplomb atteigne des records. Évidemment, ça crée une dynamique et le but, c'est que cette deuxième pétition contre l'austérité suive le même chemin pour dire que nous ne voulons pas choisir entre fin du monde et fin du mois. C'est le même combat. C'est très grave de mettre en danger l'avenir de nos enfants en réautorisant des pesticides et des substances dangereuses pour l'environnement. Et c'est aussi une mise en danger de notre avenir et de celui de nos enfants, de couper dans toutes les dépenses d'avenir, de couper dans les investissements pour l'éducation, pour la santé, de couper dans les dépenses sociales, ce à un moment où les inégalités sociales atteignent des records. Il n'y a jamais eu autant de personnes riches en France et il n'y a jamais eu autant de personnes pauvres en France, notamment des travailleuses et des travailleurs. Ils vont encore être mis à contribution. C'est pour ça que nous appelons l'ensemble des personnes qui nous écoutent à signer cette pétition sur change.org/budget-bayrou.
Sophie Binet, la secrétaire générale du syndicat CGT, avec Maxime Debs. La pétition approche pour le moment les 50 000 signatures. Il avait hier les faveurs du Rassemblement national. Robert Ménard pourrait bien changer de soutien. Bonjour Lise Roseveille.
Bonjour.
Ce n'est pas une investiture au sens propre, mais le maire de Béziers pourrait bien partir sous les couleurs du parti Les Républicains pour les prochaines élections municipales.
C'est une option sérieuse, nous confie l'entourage du président des LR Bruno Retailleau, comme l'a révélé Figaro. La décision sera tranchée en commission nationale d'investiture. Tout le monde y trouve son intérêt. Lâche un LR proche du dossier. Le parti pourra se targuer d'une victoire et Robert Ménard se détacher de l'étiquette RN. Le maire sortant a bien été élu en 2014 avec le soutien du Front National à l'époque. Lui qui a aussi soutenu Marine Le Pen à la présidentielle avant de prendre ses distances avec le parti. Ses prises de position, guerre contre les kebabs, refus de marier un Algérien sous OQTF, maison de correction pour les mineurs, font encore régulièrement polémique. Mais le fondateur de Reporters sans frontières correspond bien à la stratégie de Bruno Retailleau. Tout faire pour battre la gauche au municipal, le cordon sanitaire contre les insoumis, pas contre le RN. Correspond-il aux valeurs des Républicains? Écoutez, on fait avec ce qu'on a, balayé un membre du parti qui reconnaît que le parti n'a personne de mieux placé localement.
Lise Roseveil, service politique de France Inter. Deux nouveaux épisodes de transmission de dengue identifiés en France métropolitaine. 4 cas au total cette année, annonce aujourd'hui Santé publique France. 12 épisodes de chikungunya ont également été répertoriés. Le bilan a changé depuis le dernier, la semaine dernière.
France Inter, le journal de 13h. Sébastien Cabrita dos Santos.
C'est un rituel estival pour les enfants sur les plages. Le Club Mickey fête son anniversaire, 90 ans aujourd'hui. Institution notamment à La Baule, en Loire-Atlantique, qui a vu parfois défiler 3 voire 4 générations d'une même famille, Florian Cazola.
Après avoir emmené ses 2 premiers enfants, aujourd'hui quasiment majeurs, Sylvaine y revient désormais pour ses 2 dernières.
C'est calme, on sent nos enfants dans un encadrement sécurisant.
Et le verdict est sans appel.
Tout me plaît.
Y compris le trampoline.
On n'a toujours pas testé.
On peut y aller.
Ça court, ça crie, mais surtout ça sourit. Et c'est l'essentiel pour Caroline, c'est sa 4e année au club.
Moi je les connais tous. Certains d'entre eux, je les ai même vus bébés. Je dirais en fait qu'il y a beaucoup de familles qui ont des logements ici. Donc finalement... Les enfants passent des vacances avec papy, mamie. Et les papy, mamie ont déjà déposé leurs enfants ici quand ils étaient parents. Donc c'est finalement quelque chose de générationnel et culturel. On continue la tradition, 3e génération.
De Florence, la mamie, à Alexandra, la maman, en passant par toutes les autres.
Bah moi déjà, en fait, je viens ici depuis que je suis toute petite, donc j'allais moi-même au club. Donc c'est la transmission.
C'est un investissement. Moi je dirais pas que c'est pour toutes les bourses, mais de toute façon toutes les bourses ne sont pas à La Baule.
Oui, oui, c'est une activité qui est très rentable.
Ça, c'est Marion. Avec son mari, elle a repris le club Mickey il y a 3 ans.
En 3 ans, on fait un bilan qui est à court terme. On verra sur du plus long terme, mais en tout cas c'est une activité complémentaire qui vaut la peine.
2 mois d'ouverture chaque année et environ 50 d'enfants accueillis tous les jours avec un sourire qui se transmet de génération en génération.
Un reportage sur les plages de La Baule, Florian Cazola. Ici Loire-Océan, ex-France Bleu. Et puis c'est la dernière étape promise aux sprinteurs. 17e étape de ce Tour de France entre Bolène et Valence cet après-midi. 160 km au programme et un départ tardif, pas avant 13h35. C'est la dernière semaine et ça ne joue quasiment plus que pour des victoires d'étape. Hein. Tadej Pogacar, bien trop loin devant au général, 4 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Des averses et des orages pour cet après-midi.
Effectivement, situation très instable sur le pays. Cet après-midi, les averses vont se multiplier sur un large quart nord-ouest, de la Normandie à la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France, au centre-Val de Loire et au Limousin, ainsi que de l'Occitanie à Auvergne-Rhône-Alpes. Des orages risquent d'éclater sous les averses les plus forts, un peu de grêle également, mais ce sont surtout des cumuls importants qui sont à craindre. Les averses seront plus rares entre les Hauts-de-France et la Bourgogne, même si quelques débordements orageux pourront toucher la Picardie. La Provence sera en marge, mais les éclaircies seront timides. Un temps également plus clément va revenir sur les côtes aquitaines, le Finistère et le Cotentin. Et puis l'après-midi sera encore plus calme et lumineux, de l'Alsace à la Franche-Comté. Et en Corse, l'après-midi sera même largement ensoleillé avec un ciel bien dégagé. Et puis il fait frais. D'ailleurs, autour de la Méditerranée, vous gardez des températures proches des valeurs de saison, mais ailleurs, les maximales sont sous les normales. Prévoyez 19 à 27 degrés en général, avec 23 degrés pour Paris et pour Toulouse ou encore 25 degrés pour Bordeaux et pour Strasbourg. Autour de la Méditerranée, il fera 26 à 31 degrés.
Sébastien Léas, Météo France, merci.
France Inter présente...
Hey, c'est l'heure des Odyssées. Cette fois, oh purée, j'ai pété les plombs. J'ai kidnappé les 4 grands maîtres du mystère. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Arsène Lupin et le grand reporter Rouletabille. Résultat, pour se libérer, chacun d'entre eux va nous raconter sa meilleure enquête. Cet été, oserez-vous plonger au cœur du mystère ?
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
À 13h20, très bientôt sur France Inter, c'est tout de suite Regarde la France avec Laetitia Gaillet.
J'avoue, j'ai craqué. Je suis allée dans la Marne avec la volonté farouche de ne pas faire de producteur de champagne. Petite ou grande maison d'ailleurs. Ne me demandez pas pourquoi, parfois j'ai des lubies. Je cherchais en fait une autre manière de parler vin et bulles. Je suis donc allée sur internet, j'ai tapé « sommelier dans la Marne » et je l'ai trouvé lui. Un quadragénaire élégant, patron de son établissement, à 1h30 de Reims, près d'un lac. Je l'imagine, à cette heure, en train d'expliquer à ses clients quel vin prendre pour accompagner les plats. C'est un conteur, un passeur de goût.
Sébastien Julien, j'ai 40 ans et je suis sommelier au Cheval Blanc, au lac du Der, en Champagne.
De l'art de raconter un verre de vin.
Des fois on ferme les yeux et moi je m'imagine déjà tout de suite le lieu, où est-ce que je vais être pour le déguster après et ce que je vais manger.
À l'art de la table.
Il y a des vins que j'ai goûtés, je dis « Ah ça en terrasse, l'été ça va être super ». Il va être 11h30, ça réveille les papilles. Alors on a envie d'un premier petit ceviche là, de poisson tout de suite pour donner un petit côté un peu salin.
Jusqu'à la vérité absolue.
Oui, parce qu'on peut goûter le meilleur vin du monde. Et puis si à table ça se passe pas très bien, vous avez beau avoir le meilleur vin du monde, il sera pas aussi bon que si vous êtes avec la bonne personne.
Sébastien est un passeur.
Je ne sais pas faire un vin. Moi je sais juste le déguster et en parler. Et le faire partager aussi à mes clients.
Est-ce qu'on est sommelier de son terroir ou est-ce qu'on est sommelier globalement ?
Alors, on est sommelier globalement, mais après on est tous un peu de son terroir, mais non, on aime, moi j'aime tous les vins, vraiment, on est sommelier de tous les vins, mais pas que les vins, de la bière, on peut parler aussi un peu du thé, le saké a pris beaucoup d'évolution, enfin, maintenant on est sommelier, mais pas que, il y a plein d'autres boissons qui entrent en ligne de compte dans les accords, mais vins, mais bière, c'est super intéressant, non, il y a beaucoup de choses.
Comment on apprend l'accord mets vins?
Alors après l'accord mets et vins, bon, il va y avoir des basiques d'accord mets et vins, viande blanche, viande rouge, et puis après c'est ben, l'accord, c'est pareil, c'est subjectif, moi je trouve, c'est-à-dire que ça dépend de nos souvenirs à nous, de ce qu'on a envie du moment. Bon, il y a des choses qu'on peut pas trop déroger à la règle, mais après c'est aussi intéressant d'aller chercher des petites choses qu'on pense pas sur un fromage. Arrêter de mettre du vin rouge, mais on prend du vin blanc et on se rend compte que l'accord est incroyable. Sur les desserts, pourquoi pas aller sur des ratafias, ici en Champagne, c'est super intéressant, même un vin rouge sur un dessert au chocolat. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Mais ça, après, c'est au fur et à mesure de l'apprentissage, des rencontres, toujours. Et puis, c'est aussi un peu le goût du sommelier là, qui rentre en ligne de compte.
Et là, c'est ma question fondamentale, mais l'accord, pourquoi on met ça plus avec telle autre chose ?
Eh bien, en fait, il faut que tout soit aligné. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui l'emporte plus que l'autre. C'est comme un couple. Et c'est ça qui est magique. Et puis, tout au long du repas, entre guillemets, il faut monter un petit peu en arôme et en saveur. On va commencer avec un vin sur l'apéritif, donc assez léger, avec des arômes très légers, voilà, sur peut-être le côté un peu floral, des tout petits fruits jaunes, voilà, un peu pêche, abricot, tout doucement. Et puis après, on va peut-être partir sur des vins qui ont déjà un peu plus, soit un peu plus vieillis, soit plus de passage en fût. Vous voyez qu'il y a un petit passage en fût pour apporter une petite complexité au vin, parce qu'on arrête sur des plaques des sauces qui sont plus grasses, donc il faudra un vin qui soit un peu plus gras. Et puis on va finir sur des fromages avec des vins, peut-être apporter un peu de fraîcheur, justement sur ce côté un peu déjà. Ben, le fromage a ce côté un peu levure, champignon, avec les croûtes. Donc il faut faire attention à pas. Donc à peut-être apporter un peu de fraîcheur dans le vin. Et puis on va arriver sur le dessert. Donc il faut avoir une bouche un peu plus saine, moins grasse pour arriver sur le sucré.
Mais ça veut dire que vous avez une connaissance culinaire en même temps que sommelière.
Mais en fait, il faut. Quand on parle de vin, bah, en fait, il faut tout connaître. C'est-à-dire qu'il faut tout sentir. C'est peut-être bête, mais des fois, je disais toujours, même quand on se balade, hein, il faut prendre de la mousse, il faut la sentir, il faut sentir les feuilles, il faut sentir la terre, il faut sentir. Vous baladez dans la rue, il faut sentir le chèvrefeuille s'il y en a un, le lilas. Il faut emmagasiner un maximum d'arômes dans sa mémoire. C'est plein de petits tiroirs qu'il faut cocher. Et le vin, c'est pareil.
Chez vous, on est vigneron, on est dans la restauration. Il tourne la tête, non.
Pas du tout. J'ai souvenir des grands repas de famille le dimanche. Maman faisait des grands plats. Je me rappelle des premiers vins que maman sortait. C'était des Châteauneuf-du-Pape. Moi, ça me semblait magique.
Châteauneuf-du-Pape au premier vin, sympa.
Non, c'est sympa. Et ça reste des... Du coup, ça reste une région particulière pour moi parce que c'est une petite Madeleine de Proust, en fait.
À quel moment vous comprenez que cette partie-là va être la grande partie de votre vie, en fait ?
Eh ben, c'est le jour où j'ai bu un verre de Silex de chez Didier Dagneau dans une petite brasserie.
Un pouilly fumé.
Incroyable. Et là, on se dit, pouf. Moi, c'est ça que je veux faire.
Est-ce que vous m'offririez la possibilité de voir votre cave ici ?
Oui, on peut y aller.
Eh ben, allons-y alors.
Bon, elle est en bazar. Hein.
Ah ouais, quand même. Elle est pas mal. Donc ici, on a combien de température ?
Là, il fait 13 degrés, à peu près.
Alors, ils sont rangés comment, vos vins ?
Ils sont rangés par région, toute la partie Champagne de ce côté-là. Là-bas, on a la vallée du Rhône, la Loire, ici, le Beaujolais, la Bourgogne, et derrière vous, le Bordelais, avec un petit peu d'Alsace, ici. Et puis, au milieu, on a un peu de Savoie, Jura, Languedoc.
Donc, si je vous dis un côte rôti ?
Oui, on y va. J'en ai une là. Une côte rôti, ici.
Ah ouais. On est dans la Marne, en termes de Champagne.
On va prendre la première, là, on va prendre celle-ci. Là, on est chez Marie Copinet. Donc là, on est sur le Pinot Noir et sur la Pierre, ce qui nous donne un vin avec beaucoup d'ampleur. Quand vous l'avez en bouche, vous dites que ouais, le vin est là, il est placé, il est grand.
Vous, Sébastien, vous diriez qu'à 40 ans, vous êtes devenu quel sommelier, selon vous ?
Je suis passé dans le sommelier qui a envie de transmettre. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, voilà, j'ai fait ma cave. Ici, au Cheval Blanc, on a 800 références de vin, 200 en champagne. C'est pas mal, je trouve ça bien pour notre restaurant. Et maintenant, j'ai envie de transmettre ça et à mon équipe qui est ici avec nous. Et puis, dans l'association où je suis toujours. J'ai envie de ce rôle-là, que ça continue et qu'on découvre toujours, mais qu'on fasse aussi passer cette... Enfin, la transmission, c'est important.
Il y a une forme de fierté d'être sommelier dans son établissement.
Ah oui, là c'est moi qui décide, qui est sur ma carte, ce que je veux faire passer, transmettre et faire partager. Moi je fais ce que je veux chez moi.
C'est le paradis chez vous.
Ouais. Non, c'est chouette. Hein.
Voilà tout. courir. Quand il dit, il faut dormir. Quand il dit, il faut courir. Quand il dit, il faut dormir.
Écouter son corps, c'était Mathieu Bogart sur France Inter. Tout de suite, 2000 ans d'histoire de Patrice Gélinet. Cet après-midi, Richard Cœur de Lion, l'histoire de l'un des souverains les plus puissants d'Occident.
Il était un géant dans la bataille et se trouvait partout. Il était Achille, Alexandre et Roland. Ambroise.
Mille ans d'histoire. Malgré ou même à cause d'Ivanhoé et de Robin des Bois qui ont fait de lui un personnage de légende, Richard Cœur de Lion reste à bien des égards un inconnu. Qui sait que celui qui fut roi d'Angleterre n'y a séjourné que 6 mois pendant ses 10 ans de règne, qu'il a vécu plus longtemps en France où il est mort et enterré, que ce guerrier était aussi un troubadour et que celui qui fut l'incarnation de la chevalerie a plus souvent porté les armes contre son père que contre Saladin ou Philippe Auguste. Bref, que ce roi sans peur n'était peut-être pas sans reproche, n'en déplaise aux inconditionnels de Robin des Bois ou aux lecteurs de Walter Scott.
Au XIIe siècle, au terme de la troisième croisade pour la libération de la Terre Sainte, le chevalier saxon Wilfrid d'Ivanhoé entreprit en secret une croisade personnelle. Roi d'Angleterre et guerrier valeureux, Richard Cœur de Lion avait disparu au cours de la longue marche qui devait le ramener dans son royaume, et nul n'avait pu retrouver sa trace. Mais Ivanhoé restait convaincu que son roi était encore en vie, et sa foi le poussa à entreprendre d'interminables recherches qui, de château en château, le conduisirent finalement en Autriche.
Mon cœur était un lion, il est dans les chaînes. Et par le monde, je vais chantant ma peine. En effet, le serment, ô mon cœur de lion, vienne le moment de t'ouvrir ta prison.
Jean Fleury, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre un extrait d'Ivanhoé, un film qui, je crois, n'est pas étranger à votre vocation d'historien.
Oh, mais je crois que tous les médiévistes ont été plus ou moins impressionnés dans leur enfance par le roman de Walter Scott, aussi fautif soit-il.
Oui, c'est ça, parce que, bon, Ivanhoé est un personnage de légende, alors nous allons parler avec vous d'un homme bien réel, en revanche, celui-là, Richard Cœur de Lion, auquel vous venez de consacrer une biographie chez Payot, un roi donc que l'on croit connaître, qui a régné, il faut le rappeler, sur l'Angleterre, entre 1189 et 1199, date de sa mort, mais un roi aussi que l'on découvre pourtant en vous lisant, parce que ce roi d'Angleterre, en fait, était français d'origine.
Oui, il est tout à fait français, il est angevin, et c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs plus ou moins mal vu par les Anglais qui lui reprochent d'être trop français, et par les Français qui lui reprochent d'être roi d'Angleterre et d'avoir lutté contre le roi français Philippe Auguste. Alors, il est donc entre deux chaises, si j'ose dire.
Oui, et puis fils donc effectivement de deux Français, d'abord un comte d'Anjou, Henri II, qui devient roi d'Angleterre, et puis d'une Française célèbre, tristement célèbre même pour certains, Aliénor d'Aquitaine.
Aliénor d'Aquitaine est plus aquitaine que française.
Oui, enfin, oui.
Aliénor d'Aquitaine est d'ailleurs une personnalité extraordinairement riche, et dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, je suppose.
Alors, c'est un fils un peu indigne, hein, son père, donc, qui devient Henri II, roi d'Angleterre, c'était en 1154. Son père, en fait, il s'est battu très longuement contre lui avant de devenir roi, Richard Cœur de Lion.
Oui, parce que Henri II avait, semble-t-il, une animosité assez forte à l'égard de son fils. On ne sait d'ailleurs pas très bien pourquoi, il y a de multiples raisons qui seraient trop longues d'énumérer ici. Il y a deux raisons qui ont conduit Richard Cœur de Lion à s'opposer à son père. C'est d'abord le fait qu'il lui préférait très nettement ses autres frères. D'abord Henri le Jeune qui était l'aîné. Oui. Hein, Henri le Jeune aurait dû régner avant Richard, mais il est mort en 183. Donc c'est Richard qui devenait à ce moment-là l'héritier. Mais tout en devenant l'héritier, son père lui préférait malgré tout Geoffroy, son frère cadet, et même Jean Santerre, qui pourtant n'avait pas de qualité ni de chevaleresque, comme on le verra.
Ah, c'était un méchant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on voit ce western qu'était Ivanhoé, il jouait le rôle du méchant, en tout cas.
Il ne faut pas trop exagérer, mais enfin, certainement qu'il n'a pas le brio ni le caractère étincelant de Richard Cœur de Lion.
Ah, il faut croire, Jean Fleury, en tout cas, que Henri II ne lui tenait pas rigueur à son fils de s'être battu contre lui, d'avoir comploté contre lui, parce que quand il meurt, il lui laisse, lui et puis sa femme Aliénor d'Aquitaine, lui laisse un héritage énorme. On oublie toujours que c'était peut-être le plus puissant des souverains d'Europe à l'époque, Richard Cœur de Lion.
Oui, déjà à l'époque d'Henri II, le fait qu'il hérite de l'Aquitaine, puis non pas directement, puisque c'est Aliénor qui est duchesse d'Aquitaine, et elle transfère son duché à son fils Richard en toute propriété, puisque la dot, elle ne passe pas au mari. Aliénor garde l'Aquitaine, elle le transfère à Richard. Mais pour la Normandie, pour le Maine, pour l'Angleterre, à la mort de Henri II...
Une Angleterre agrandie à l'Irlande, puisque Henri II avait déjà commencé à conquérir l'Irlande.
Oui, l'Irlande est encore à conquérir à cette époque, très largement. Oui. Mais l'Angleterre, en tout cas, est un royaume relativement riche à cette époque, et le fait qu'il devienne roi d'Angleterre en même temps que duc de Normandie, duc d'Anjou, duc du Maine et duc d'Aquitaine, fait qu'il possède, ne serait-ce qu'en France, une partie beaucoup plus considérable du territoire actuellement national que ne le fait son rival Philippe Auguste.
En tout cas un domaine immense, puisque ça va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, on comprend effectivement que Philippe Auguste est un peu une maille à partir avec lui. Alors Philippe Auguste, en revanche, il part avec Richard Cœur de Lion en croisade, parce que la réputation de Richard Cœur de Lion comme chevalier, preux, etc. était déjà faite. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs de cette époque, c'était avant qu'il devienne roi, qu'on le surnommait déjà Richard Cœur de Lion.
Probablement dans les nombreux conflits qui ont entraîné Richard à lutter contre les vassaux révoltés d'Aquitaine. Mmh. Et là, il s'est comporté effectivement déjà comme un vaillant chevalier. Mais sa réputation, internationale, pourrait-on dire, et elle se fait principalement à la croisade.
La troisième croisade, il faut rappeler, il s'agit de reprendre Jérusalem à Saladin, une croisade dans laquelle il part juste après avoir été couronné roi en 189. Il part donc en Terre Sainte et il va rester 3 ans, je crois, pour se battre.
Ils partent tous les deux, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Il y avait un troisième l'empereur, Frédéric Barbrousme, qui est mort en traversant une rivière en Asie mineure. Mais Richard ne va pas directement en croisade. Il passe d'abord par l'île de Sicile, dont il y a des épisodes extraordinaires aussi en Sicile. Il conquiert pour son propre compte l'île de Chypre, où il épouse d'ailleurs Bérengère de Navarre, avant d'arriver en triomphateur au siège d'Acre, où était déjà depuis pas mal de temps son rival Philippe Auguste. Mais il fait une entrée solennelle qui éclipse évidemment tout le prestige des autres rois.
Et qui s'en vont d'ailleurs. Ils s'en vont, Philippe Auguste.
Pas tout de suite. Un an après, Philippe Auguste a abandonné pour rentrer en France où des intérêts plus matériels et plus directs l'attendaient. À savoir comploter avec Jean Santerre pour essayer de ravir à Richard une partie de ses territoires français.
Alors Richard Cœur de Lion donc reste en Terre Sainte, ne parvient pas à prendre Jérusalem, et puis il quitte la Terre Sainte en 192, et là commence l'épisode le plus connu de son règne, la captivité. Il est capturé par Léopold d'Autriche, qui le remet à l'empereur, et qui exige une rançon considérable aux Anglais.
À notre peuple d'Angleterre, je suis maintenu en captivité par Léopold d'Autriche. Mon frère, le prince Jean, en a connaissance et cependant il a refusé de verser la rançon demandée, 150 000 marcs d'argent, prix de ma délivrance. Je le soupçonne de conspirer avec certains chevaliers normands pour s'emparer de mon trône. Peuple d'Angleterre, ton prince te demande de hâter sa délivrance, ton royaume est en jeu.
Le prince Jean et certains chevaliers normands.
Alors c'est un extrait d'Ivanhoé, donc cette espèce de western médiéval dans lequel le prince Jean, le frère donc de Richard Cœur de Lion, qui est en Angleterre, qui c'est une espèce de régence à ce moment-là, en l'absence de Richard Cœur de Lion, aurait empêché que son frère soit délivré.
Oui, parce que les relations, on a parlé tout à l'heure des conflits entre le père Henri II et les fils, pas seulement Richard, parce qu'il y a des renversements d'alliances considérablement compliqués sur lesquels, dans lesquels je n'entre pas. Mais Henri II ne voulait pas laisser la place, en quelque sorte. Et les cadets sont impatients, ils veulent régner. Mm-hmm. À cela s'ajoute une haine véritable entre Richard et son père, pour des raisons multiples, ne serait-ce que le fait que Henri II a copieusement trompé Aliénor d'Aquitaine, avec Aélis, d'une part, fiancée de Richard.
Henri II est mort à ce moment-là, quand il est en captivité, parce qu'il est roi, Richard Cœur de Lion.
Oui, bien sûr.
Oui, mais la haine aussi, c'est avec son frère, Jean Santerre.
Oui, la haine existe non seulement entre le fils et le père, mais aussi entre les frères, puisque il y a eu des renversements d'alliances considérables. Une fois, c'est Richard et Henri contre Henri II, contre le père. Une fois, c'est Richard et Jean et Geoffroy contre le frère aîné. Enfin, c'est une famille dans laquelle on se déteste copieusement.
En tout cas, il faut voir que les Anglais aiment Richard Cœur de Lion, car ils vont payer cette rançon qui était immense, hein, 100 000 mares d'argent. Je crois que c'était deux fois le revenu de l'Angleterre.
Ça correspond au moins, oui, à deux années.
Le revenu annuel,
revenu annuel, au moins. C'est une somme considérable qui ne sera surpassée dans l'histoire que par la rançon au XIIIe siècle du roi Saint-Louis.
En tout cas, la prison, eh bien, Richard Cœur de Lion la met à profit, puisque c'est l'occasion pour lui d'écrire un poème, car ce roi chevalier était aussi un troubadour. Écoutez.
France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Et puis une plainte, comme on disait à l'époque, de Richard Cœur de Lion lui-même, hein, qui était un troubadour et qui s'exprimait en Languedoc, je crois, Jean Fleury. Vous avez l'air sceptique quand on dit troubadour.
Oui, et on connaît très peu.
C'est de lui, hein, cette chanson.
Oui, c'est de lui. Il y a au moins une pièce authentique, probablement deux, peut-être trois. Mais c'était pas vraiment un troubadour. Il a de qui tenir quand même, puisque le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, donc la mère de Richard, était, lui, un véritable troubadour. Le premier, probablement.
Guillaume IX d'Aquitaine,
probablement le premier troubadour de l'histoire de notre France actuelle.
La cour d'Aquitaine, où Richard Cœur de Lion a passé sa jeunesse, et où on disait, je crois, un roi illettré et comme un âne couronné.
Oui, c'est effectivement une boutade qui a été faite à l'époque, un petit peu avant lui.
Mais il n'était pas illettré, lui, en revanche. C'est un homme cultivé, hein, Richard Cœur de Lion.
C'est discutable, et les érudits en discutent beaucoup. C'était pas un illettré, à coup sûr. Il parlait en tout cas plusieurs langues. Probablement très mal l'anglo-saxon. Il parlait le français, l'occitan. Le latin, probablement pas très bien. Mais c'est un homme relativement cultivé et surtout qui a été frotté de culture chevaleresque et de culture courtoise à la cour de son père déjà, et ne serait-ce que par le contact avec Aliénor, qui elle est une femme d'une très grande culture.
D'où alors sa réputation à lui de chevalier, qui l'aurait puisé justement à cette cour. En tout cas, il est plus connu effectivement pour ses exploits guerriers que pour ses vers, exploits guerriers qui reprennent dès son retour de captivité en 1192.
Richard! s'agenouille une nation divisée. Debout à présent, et tous unis, pour l'Angleterre.
Donc c'est le retour de Richard Cœur de Lion en Angleterre, d'après toujours le film Ivanhoé. En fait, il reprend tout de suite le combat, mais pas en Angleterre, Jean Fleury. À peine revenu en Angleterre, il repart en France pour se battre là pendant 5 ans contre Philippe
Auguste.
Oui,
il règle assez vite les affaires d'Angleterre, puisque sa mère était restée maîtresse de la situation, avec le chancelier, disons, celui qui servait de vice-roi en l'absence de Richard. Il a réglé assez vite la question, mais en France, en revanche, il garde une dent, si j'ose dire, une haine à l'égard de son frère Jean Santerre, qui était aussi duc de Normandie en l'absence de Richard, qui avait profité de l'occasion pour rafler une bonne partie des terres, en tout cas pour les revendiquer, et qui s'était abouché avec Philippe Auguste. Alors il y a dès que Richard rentre en Angleterre et qu'il reprend en main les rênes de son royaume, il ne pense qu'à une chose, c'est châtier Philippe Auguste de sa discourtoisie. Il ne faut pas oublier que Jean Santerre et Philippe Auguste s'étaient tous les deux portés acquéreurs, si j'ose dire, ou en tout cas anti-acquéreurs de Richard, puisqu'ils avaient payé, ils étaient prêts à payer à Henri VI une somme considérable, presque aussi considérable que la rançon, pour qu'on ne le libère pas. Alors évidemment, il en veut beaucoup à Philippe Auguste et à son frère. Il pardonne assez vite à son frère, peut-être à tort d'ailleurs, mais à Philippe Auguste, en revanche, il reprend tout de suite les opérations pour reprendre en main tous les territoires qui sont convoités par Philippe Auguste, à savoir la Normandie, une partie du sud et du centre.
La Normandie, il faut rappeler, Jean Fleury, que c'est lui qui a fait construire la célèbre forteresse de Château-Gaillard.
Oui, il l'a fait construire en un an. Il disait même que cette forteresse ne serait jamais prise. Il se faisait fort, d'ailleurs, vis-à-vis de Philippe Auguste, de le défendre, même si ses murailles avaient été de beurre, disait-il. À quel point il avait confiance dans sa valeur chevaleresque.
Et puis alors, Richard Cœur de Lion va mourir devant un autre château également, on l'ignore, en France, près de Limoges.
Le château de Chalut. C'est une chose extraordinaire que ce siège de Chalut, parce qu'on a dit qu'il faisait le siège parce qu'on y avait entreposé un trésor qui aurait été trouvé dans la région. Bon, ce n'est pas impossible, parce qu'il y a toujours des trésors qu'on retrouve de temps en temps, mais c'est beaucoup plus vraisemblablement pour châtier un vassal révolté, parce que le château de Chalut appartenait plus ou moins aux révoltés d'Angoulême et de Limoges, et il voulait les châtier. En faisant le siège du Chalut, qui est un château qui n'est pas très important, il est frappé d'une flèche à l'épaule, et il meurt, on peut dire, par insouciance, parce qu'il ne s'est pas trop soucié de cette blessure. Il a salué d'en bas l'archer qui lui avait décoché ce trait, et finalement la gangrène s'est mise à sa plaie, et il est mort après le 6 avril 1999,
il y a 800 ans,
après une dizaine de jours de souffrance.
Et alors, chose surprenante aussi, il est enterré en France. À Fontevraud.
Ah, c'est pas du tout surprenant, parce qu'il s'est toujours considéré comme un Plantagenet, c'est-à-dire il est devenu roi d'Angleterre parce que l'Angleterre, il l'hérite, si vous voulez, de son ancêtre Guillaume le Conquérant, qui l'avait prise à la pointe de l'épée en 1066. Mais c'est un prince angevin de mer Aquitaine. Donc il se considère comme un prince angevin et aquitain. Donc lorsqu'il meurt, il lègue ses entrailles, dit-il, au Poitevin, c'est-à-dire dans quel mépris il les tenait, parce qu'il s'était souvent révolté contre lui. Il lègue son cœur aux Normands de Rouen, et il lègue son corps à Fontevraud, à l'abbaye de Fontevraud, où son père était déjà enterré. Il y a déjà d'ailleurs des anecdotes très intéressantes au sujet de la sépulture de Henri II.
On n'a pas le temps de les aborder, mais alors donc il meurt en 1199, mais depuis 8 siècles, il demeure un personnage de légende entretenue de son vivant par ses contemporains, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Le roi Richard était un géant dans la bataille et se trouvait partout. Son épée brillait comme l'éclair et beaucoup de Turcs en sentirent le fil. Certains furent tranchés en deux, du casque jusqu'aux dents. Richard, le plus hardi roi du monde, plus prompt que l'épervier, moissonnait les hommes comme les paysans moissonnent avec leurs faux. Il était Achille, Alexandre et Roland.
C'est ainsi donc que le jongleur Ambroise, qui l'accompagne en Palestine, fait l'éloge de son roi Richard Cœur de Lion, un roi chevalier comparable aux héros de l'Antiquité et à ceux de la chanson de Roland. Et lors du siège de Jaffa en Palestine, Ambroise écrit même que jamais, même à Roncevaux, aucun homme, jeune ou vieux, chrétien ou sarrasin, ne se comporta comme lui. Il fait même l'admiration de ses ennemis. Le roi d'Angleterre, écrit le chroniqueur Baha ad-Din, était un homme très puissant, de grand courage et de cœur élevé. Inférieur au roi de France par son royaume et par son rang, il lui était pourtant supérieur en richesse, plus fameux et plus preux dans la bataille. Mais la témérité de Richard semble peu raisonnable au sultan Saladin. Voilà ce qu'il écrit. Le roi a beaucoup de vaillance et de hardiesse, mais il se lance follement. Quelque haut prince que je fusse, j'aimerais mieux avoir de la libéralité et du jugement avec de la mesure que de la hardiesse avec de la démesure. Richard fait si peur aux Sarrasins qu'il devient même le grand méchant loup des petits-enfants. Quand les enfants aux Sarrasines braillaient, raconte le chroniqueur Joinville, elle leur disait « Tais-toi, tais-toi, ou j'irai quaire le roi Richard qui te tuera ». Il faut dire que Richard laisse derrière lui le souvenir d'une grande cruauté aussi, notamment à Saint-Jean-d'Acre. Le roi d'Angleterre, écrit Baha ad-Din, agit traîtreusement à l'égard des prisonniers musulmans. Il s'était engagé à leur laisser la vie, mais il rompit ses engagements. Les prisonniers, qui étaient au nombre de plus de 3000, sont tous liés à des cordes. Les Francs se jettent sur eux et les massacrent de sang-froid à coups d'épée et de lance. Et Richard, en bon croisé qui se respecte, et malgré sa réputation d'homosexuel, on en parlera peut-être, n'épargne pas les femmes. Richard enlevait de force les épouses et les filles, en faisait ses concubines, et lorsqu'il avait éteint en elles ses ardeurs libidineuses, il les livrait à ses soldats en guise de filles publiques.
Alors beaucoup d'admiration, Jean Fleury, dans les textes qu'on vient d'entendre, beaucoup de réserves aussi, hein, malgré tout, un roi brutal. Évidemment, ce sont des Sarrasins qui disent ça, mais quand même, c'est vrai qu'il était violent.
Oui, mais les chevaliers de cette époque ne sont pas des tendres. Et évidemment, la réputation de hardiesse et de témérité même de Richard se paye au prix d'une réputation de cruauté. Quant au massacre des Sarrasins, il faut dire qu'évidemment que les chroniqueurs chrétiens et musulmans ne sont pas tout à fait d'accord. Ils se rejettent sur la primauté de lequel des deux camp a fait et exécuté d'abord les prisonniers. Il semble tout de même que ce soit Richard, pour des raisons difficiles à expliquer, probablement un délai trop long à son goût pour que les Sarrasins payent les sommes prévues.
Mais bien plus tard aussi, il y a un historien anglais, pas n'importe lequel, qui s'appelait Gibbon, qui disait « Si l'héroïsme se limite à la brutalité et à la férocité, alors Richard Plantagenet occupe une position éminente parmi les héros de son temps. » Donc les Anglais ne sont pas très tendres. Hein. Il y en a un autre d'ailleurs qui est plus tard, alors tout récent, qui est un historien actuel, James Bruntège, qui dit « Le pire des dirigeants que l'Angleterre ait jamais connu, dit-il, de Richard Cœur de Lion. »
Oui, ce portrait a été quand même bien rectifié par Gillingham, le meilleur historien actuel concernant Richard Cœur de Lion en Angleterre, et qui fait justice de cela. Il montre très bien, et je crois l'avoir d'ailleurs aussi montré, qu'au fond, ce que les Anglais lui reprochent, c'est d'avoir été un prince, je dirais pas français, mais angevin, et s'être occupé beaucoup plus des territoires de ce côté-ci de la Manche que de l'autre côté. Et, au fond, il a séjourné, vous avez dit, 6 mois, c'est peut-être un peu court, disons en tout cas moins d'un an en Angleterre, parce que son centre d'intérêt, c'était l'Anjou, le centre des domaines plantagenais. Et c'est pas pour rien qu'on parlait, peut-être à tort, d'un empire angevin.
On a parlé aussi dans ces textes de son homosexualité. On en parle beaucoup, on dit qu'il aurait été homosexuel, Jean Fleury.
Oui, c'est bien. C'est la thèse soutenue par la majorité des historiens. C'est assez discutable, mais enfin, il y a tout de même d'assez nombreux faits, d'assez nombreux textes qui font pencher vers cela, je dirais plutôt...
Mais il négligeait ses femmes, d'abord. Je crois qu'il était marié... Non, il était marié une fois, mais enfin...
Oui, il a été marié tardivement à Élise. Il était pas à Élise, mais à Bérengère de Navarre. Il était fiancé à Élise depuis très longtemps. Élise était une fille du roi de France. Comme son père en avait fait probablement sa maîtresse alors qu'elle était encore une très très jeune fille, pour ne pas dire une enfant, il est possible que ça ait dégoûté un peu Richard de l'épouser. Par ailleurs, il est très probable, tout de même, compte tenu des reproches que lui font pas mal d'ecclésiastiques, que Richard ait été tenté tout de même par l'homosexualité. Et ce qui expliquerait... D'ailleurs, ce n'est pas étonnant dans les milieux chevaleresques. Il n'était certainement pas un homosexuel pur et dur, mais je dirais plutôt un paillard.
Probablement un roi paillard.
Et un grand roi ou pas, Jean-Fleury, à vous lire, bien sûr, c'en est un. Mais enfin, il y a quand même tellement de nuances aussi dans ce qui est dit sur lui.
Tout dépend de ce qu'on appelle un roi. Le fait est qu'il a toujours été victorieux à peu près tout le temps dans ses conflits avec Philippe Auguste. Et au fond, les victoires de Philippe Auguste pour la création de son royaume datent de la mort de Richard. Mmh. Un grand roi sur le plan politique, peut-être, c'est discutable, Jellingham le croit, je pense qu'il exagère peut-être un peu, mais c'est pas un mauvais roi. En tout cas, un modèle de chevalerie. Et c'est sur ce point-là, je crois, qu'il a laissé une trace indélébile dans l'histoire. C'est la première fois qu'un roi se montre sur les champs de bataille avec un tel héroïsme, et qui fait surtout des vertus chevaleresques le sommet des vertus. Alors qu'auparavant, on attendait plutôt d'un roi qu'il sache gouverner, qu'il sache donner des ordres, diriger les armées, mais pas se lancer dans la mêlée à la pointe du combat.
En tout cas, je vous remercie, Jean-Fleury, de nous avoir rappelé et d'avoir démêlé un peu la légende de la réalité de Richard Cœur de Lion, donc mort en 1191 et pour lequel, à l'époque, 1199, le troubadour Gosselm Fédy a écrit cette plainte sur laquelle nous allons nous quitter.
Lodix valens Richards reis del Senglest, es mozae Deus, cas perde cas dangles, cantes drach mods, cant salvats
Le puissant et valeureux Richard, roi des Anglais, est mort. Adieu, quelle perte et quel malheur, quelle parole étrange et si pénible à entendre. Il a bien du cœur, l'homme capable de le supporter. C'était donc Richard Cœur de Lion sur une musique de Gosselm Fédit. Je rappelle, Jean-Fleury, que vous êtes auteur d'une biographie de Richard Cœur de Lion, Le Roi Chevalier, une biographie éditée chez Payot et Rivage. À lire également Richard Cœur de Lion, Le Roi Chevalier du XIIe siècle, une biographie de Roland Nicolin, parue chez CLD. Richard Cœur de Lion et le Limousin, de Marguerite-Marie Hippolyto, un ouvrage sur l'itinéraire du roi dans le Limousin, aux éditions L'Harmattan. Enfin, La Reine Bérengère et Richard Cœur de Lion, chronique d'amour et de guerre, d'Yvan Cloulas et Anne Deniol Cormier chez Hachette Littérature. Et puis vous avez pu entendre des extraits du film Ivanhoé de Richard Thorpe, disponible en cassette chez Warner Vidéo. Par la technique, Alain Saget et Romain Lenoir, documentation Elsa Boubli et Sérine Lorta-Jacob, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
C'était une rediffusion du 8 février 2000. Demain, Saladin et les croisades. Ce sultan d'Égypte et de Syrie, habile stratège, finira par vaincre les croisés en 1187.